je suggère à mes élèves que chaque fois quand ils commencent une enquête sur le migrant connecté ou dans l'environnement, de faire cet inventaire. Commencez par ça. Et vous allez constater quel est le capital de connectivité des gens dont vous parlez. Et ensuite, vous pouvez prendre chaque outil et discuter de chaque équipement. Pour, en effet, voir tout le réseau des connexions. D'accord? Ok. J'ai expliqué ça. Que deviennent nos anciens concepts de migration? On représentait comme ça les flux. On continue de les représenter comme ça. Mais j'ai mis derrière, en fait, une figure que j'ai cachée. Et derrière, en fait, sont des codes de traçabilité. Aujourd'hui, on peut dire la trajectoire migratoire, comme on peut dire aussi la traçabilité migratoire. La traçabilité migratoire, c'est une trajectoire enrichie par des données qu'on laisse avec notre habitel. D'accord? Qu'est-ce que devient le contrôle des migrants aujourd'hui? Longtemps, j'avais écrit un texte comme quoi les frontières géographiques sont remplacées par des frontières informatiques. Je maintiens ça. Comment ça se passe et comment s'est-il passé? Tout ça est arrivé au moment où on a installé les fichiers de délivrance de visa. Je cite toujours ce cas parce que c'est un migrant qui m'a illuminé. Ils m'ont cherché sur l'ordinateur, sur l'écran. Ils ne m'ont pas trouvé et je suis passée. Ils, c'était la police de frontière. Ben oui, parce que la frontière est aujourd'hui dans l'ordinateur. C'est dans le fichier de délivrance de visa. Si on passe par cette frontière, on n'a plus de problème à la frontière géographique telle qu'on l'a connue comme une barrière avant. Et la majorité des migrants, il faut savoir statistiquement, viennent avec un visa. C'est ça la frontière informatique aujourd'hui. On l'a renforcée encore. Vous savez qu'on a créé des fichiers des étrangers dans tous les pays, des fichiers nationaux, mais aussi des fichiers européens. Le système informatique Schengen qui est devenu un enfermement, c'est une nouvelle forme de prison, si je peux dire comme ça. L'Eurodac, le fichier de demandeurs d'asile politique. En fait, aujourd'hui, on a créé des bases de données des gens qui viennent sur le territoire, aussi en Europe, aussi aux États-Unis, où pour entrer, il faut que les compagnies aériennes fournissent 40 indices sur nous, à partir de nos goûts alimentaires, avec quelle carte bancaire on a acheté le billet, avec quelle compagnie, est-ce qu'on a demandé une autre fois, etc. L'âge, nationalité, ne parlons plus. Ce que je voudrais remarquer, c'est que cette frontière est ubiquée, elle est partout. Elle est dans l'ordinateur de n'importe quel consulat, de n'importe quel organisme de contrôle, même la police, quand vous passez au péage, peuvent vous arrêter et accéder aux fichiers des étrangers, d'accord? Aux États-Unis, je pense que c'est encore plus sérieux que ça. Et aux États-Unis, on vous prend aussi la biométrie. Vous savez que quand vous passez, il faut donner votre empreinte et biométrique, d'accord? Je reviens. Cette frontière est ubiquée, donc elle est partout. Et elle est que à nous. C'est une nouveauté. Par la frontière géographique, on passe plusieurs par le même chemin, par la même porte. Dans la frontière, par la frontière informatique, c'est que nous qui passons. Pourquoi? C'est parce que nous, avec notre code, notre date de naissance, etc., cette porte est que pour nous. C'est comme dans la nouvelle de Franz Kafka, le gardien, vous savez, vous connaissez, devant la loi s'appelle la nouvelle. C'est l'histoire d'un gardien et d'un personnage qui veut passer par une porte. Et le gardien lui dit, non, c'est pas possible. Et ensuite, les années passent, il veut passer, le gardien se dit, c'est pas possible. Il vieillit, il est en train de mourir et il a une illumination comme ça et avec une voix faible, il dit, j'aimerais bien quand même poser une question. Et le gardien a pitié, s'approche de lui et lui dit, pourquoi par cette porte, il y a personne qui est passé? Et le gardien lui dit, parce que cette porte est que pour toi. Eh bien, cette frontière informatique est comme ça. Là, est que pour nous. C'est que nous qui pouvons passer par cette porte, d'accord? Donc, ubiquité et individuel. et biométriser ça. Les corridors de transfert. Alors, vous savez que une des sources de financement des intérêts pour les études d'immigration s'oriente vers les remittances. Les remittances, c'est un sujet qui préoccupe la Banque mondiale, les agences de développement. On les avance, on saisit parce qu'il y a des flux d'argent importants. Chaque migrant est dans une économie de fourmis, comme dit Alain Tarus. Donc, peut-être au niveau individuel, leur économie ne compte pas, mais quand il s'agit de 200 millions de migrants, oui, cette économie compte. Elle semble une belle opportunité, tant pour les banques que pour les opérateurs aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que de plus en plus, corridors de transfert et corridors de communication commencent à coïncider. Et pas seulement aussi corridors de transfert. Je n'ai pas sorti mon exemple, mais sur le boarding card, une de mes boarding cards, il y avait ma place avec le 13D ou je sais pas quoi. Mais si on retournait le boarding card, il y avait aussi une réclame pour Western Union. Vous savez, la société qui la plus importante qui fait le transfert d'argent. Mais plus encore, aujourd'hui, on constate que tous les opérateurs se lancent dans une course extraordinaire pour, en fait, créer des corridors aussi de transfert, pas seulement de communication. Vodafone, Orange et les autres. Il y a plein de cas. Vous les avez, je ne sais pas, oui, vous les avez ici. Par exemple, au Kenya, Safaricom, qui est l'antenne de Vodafone, a lancé M-Pesa. Vous avez en Inde Visa Card et les banques qui ont mis en place un système de transfert de carte à carte via le téléphone. Western Union n'est pas resté à côté et ils ont lancé avec tout le GSMA, avec le groupe de 19 opérateurs, voilà, avec l'association des opérateurs, un grand projet, Global Mobile Transfer Pilot Use Mobile to Benefit Migrants, Workers and Unbanked. Donc, il s'adresse carrément aux migrants non bancarisés. On assiste à ça aujourd'hui. On a des innovateurs qui travaillent avec nous dans le programme et qui mettent en place des tontines, donc des prêts, des microcrédits, de P2P, de personne to personne. D'accord? On assiste à une innovation autour de cette niche économique extrêmement importante. Vous avez vu? Ah oui, je vais passer vite parce que c'est évident, les grands corridors des actualités des médias. Beaucoup de migrants se branchent aux journaux, aux télévisions, d'une manière quotidienne aussi. Maintenant, pour faire le point sur le corridor, et je passe à un autre sujet, c'est de dire que aussi les pays d'accueil, qu'est le pays d'origine, s'intéressent à ces corridors. Qu'est-ce qu'on voit dans les pays d'accueil? Ils souhaitent gérer les flux de migration. On a donné l'exemple de cette institution créée par la Commission européenne au Mali, qui veut installer un concept de migration choisie à travers les données qu'il souhaite faire une base de données et pousser les migrants à avoir des projets pour passer la frontière informatique. Il y a d'autres formes, surtout de contrôle, qui se sont développées. Mais c'est très intéressant qu'est-ce que se passe dans les pays d'origine. Parce qu'ils ont pris conscience que, grâce au fait que le migrant est connecté aujourd'hui, ils peuvent en fait créer des corridors, ils peuvent offrir des services aux migrants lointains, à leurs ressortissants lointains et aspirer les ressources. Ils ont mis en place, les pays les plus intéressants, ils ont mis en place des systèmes vraiment de captation de ressources, qu'ils soient de l'argent, de l'information, du vote ou d'autres. On prend toujours l'exemple des Philippines. Ils ont créé le système suivant. Ils ont un téléphone mobile qui fait office de passeport, qui fait office de carte bancaire, qui fait office de carte vitale, qui fait office on peut voter aussi. D'accord. Donc on a, comme dans un couteau suisse, plusieurs fonctions. Les corridors coïncident dans un seul outil qui ouvre plusieurs corridors. Et en fait, on arrive, si on n'est pas bancarisé en France, parce qu'on n'a pas de papier, par exemple, mais on est quand même présent, mais on a cette carte-là, on peut quand même envoyer l'argent par ce service, du téléphone à téléphone, par exemple. D'accord? Donc, on donne plus d'autonomie aux personnes qui partent. On leur donne des autonomies, mais on les tient aussi sur les ficelles, invisibles. D'accord?